Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La vie liquide est un essai de sociologie politique dans lequel Zygmunt Bauman prolonge son analyse de la modernité liquide. Publié en français dans une première édition en 2006, puis repris en poche, le livre observe des sociétés où les formes durables, institutions, identité, emploi, relations et repères culturels perdent leur stabilité. Bauman ne décrit pas simplement une accélération technique ou économique. Il étudie la manière dont la mobilité, la consommation et la nécessité de se réadapter en continu façonnent les conduites individuelles. Dans cet univers, rester fixe peut paraître plus risqué que changer, mais le changement incessant produit aussi anxiété, déclassement et fragilité des liens. L'essai aborde notamment la célébrité, la culture, les peurs collectives et la valorisation politique de la sécurité. Son objectif est de rendre intelligible une expérience contemporaine souvent vécue comme dispersée et instable, tout en interrogeant les conditions nécessaires pour réintroduire de la responsabilité et de l'humanité dans la vie commune. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la modernité liquide désigne la perte des cadres sociaux durables. Le concept de modernité liquide sert à opposer le présent à une phase antérieure de la modernité, plus solide dans ses institutions et ses trajectoires. Les cadres collectifs ne disparaissent pas nécessairement, mais ils deviennent moins capables de garantir une direction stable aux existences. Une formation ne promet plus une carrière linéaire, une identité sociale ne se fixe plus aisément et les institutions elles-mêmes demandent aux individus de demeurer flexibles. Bauman insiste ainsi sur une transformation des rapports entre structure sociale et biographie personnelle. Là où des règles relativement durables pouvaient encadrer les choix, chacun doit davantage composer son propre parcours au milieu de conditions mouvantes. Cette responsabilisation apparente peut être vécue comme une liberté, mais elle transfère aussi vers les personnes le coût des incertitudes économiques et sociales. La liquidité ne constitue donc pas un simple synonyme de nouveauté. Elle décrit un environnement dans lequel les engagements, les positions acquises et les projets de long terme semblent constamment révisables. La conséquence centrale est une difficulté à convertir les expériences en sécurité durable. Le livre éclaire ainsi pourquoi l'injonction à l'adaptabilité peut coexister avec un sentiment profond de précarité et de désorientation. Deuxièmement, la mobilité permanente transforme le changement en obligation de survie dans la vie liquide. La vitesse et la mobilité ne sont pas seulement des possibilités offertes par la mondialisation. Elles deviennent des normes implicites. Il faut rester disponible, actualiser ses compétences, abandonner ce qui paraît dépassé et anticiper la prochaine transformation. Bauman analyse cette dynamique comme une crainte de manquer le mouvement en cours plutôt que comme une marche confiante vers le progrès. Le changement cesse alors d'être un moyen choisi pour atteindre un but collectif ou personnel. Il devient une exigence autonome, entretenue par la peur de devenir inutile, invisible ou inemployable. Cette logique affecte fortement le rapport au temps. Le présent est dominé par l'urgence de se renouveler, tandis que le passé paraît rapidement obsolète et que l'avenir est difficile à planifier. L'individu est poussé à conserver plusieurs options ouvertes, car tout engagement durable peut sembler limiter sa capacité de réaction. Bauman met en évidence le paradoxe qui en résulte davantage de circulation et de choix ne produisent pas automatiquement davantage de maîtrise. Lorsque les ressources sont inégalement réparties, certains peuvent faire de la mobilité un avantage, tandis que d'autres subissent les déplacements, les ruptures et les ajustements imposés. La fluidité sociale est donc aussi une question de pouvoir. Troisièmement, le consumérisme étant la logique du jetable aux personnes et aux identités, Bauman place le consumérisme au centre de son diagnostic. Il ne le réduit pas à l'achat de biens superflus, mais le comprend comme une manière d'organiser les attentes sociales. Les objets sont valorisés par leur nouveauté, leur emplacement rapide et leur capacité à procurer une satisfaction immédiate. Dans un tel cadre, la durée peut paraître suspecte, conserver, réparer ou s'attacher risque de passer pour un frein à la nouveauté. Le sociologue montre que cette logique déborde le marché des marchandises. Les individus sont invités à se présenter comme désirables, adaptables et continuellement améliorables, presque comme des produits soumis à évaluation. Le danger est que ceux qui ne répondent plus aux critères du moment soient traités comme excédentaires ou jetables. Les identités elles-mêmes deviennent révisables, composées pour rester attractives dans des contextes changeants. Cette analyse explique la place prise par la célébrité. La visibilité et la recherche de reconnaissance rapide, elles fournissent des signes temporaires de valeur dans un monde instable. Bauman ne condamne pas moralement tout désir de nouveauté. Il examine plutôt ses effets sociaux lorsqu'il devient le principe dominant. Une société qui fabrique rapidement de la satisfaction fabrique aussi rapidement de la déception, de l'exclusion et le sentiment de ne jamais être suffisamment à jour. Quatrièmement, la fragilité des liens humains nourrit une insécurité qui dépasse le danger réel. la vie liquide accorde une place essentielle à la fragilité des liens humains. Lorsque les relations doivent rester faciles à modifier ou à interrompre, elles peuvent protéger contre certaines contraintes. Mais elles perdent une part de leur capacité à soutenir les personnes dans la durée. Bowman relie cette situation à une insécurité diffuse. Elle ne provient pas seulement de menaces identifiables, mais de l'incertitude concernant le travail, la place sociale, la reconnaissance et la permanence des relations. Cette insécurité favorise la recherche de garanties immédiates. Or, les réponses publiques peuvent se concentrer sur la sécurité au sens étroit, surveillance, contrôle et protection contre des dangers visibles, sans résoudre les causes sociales plus larges du malaise. Le livre invite ainsi à distinguer la sécurité comme sentiment d'existence protégée et les politiques qui promettent seulement de réduire certains risques. Cette distinction demeure importante, une société peut multiplier les dispositifs sécuritaires tout en laissant augmenter la vulnérabilité liée à la précarité, à l'isolement ou à l'absence de perspective. Bowman montre que la peur est aussi une expérience politique, car elle oriente les priorités collectives et rend acceptables des solutions simplificatrices. Son analyse ne nie pas les dangers, mais questionne la manière dont une anxiété générale est convertie en obsession sécuritaire. En dernier lieu, la culture et la célébrité révèlent le passage de la durée à la visibilité instantanée. Bowman examine les transformations de la culture et des formes de célébrité pour rendre concrète sa théorie de la liquidité. Dans une culture organisée autour de la consommation rapide, la valeur est de moins en moins attachée à la permanence d'une œuvre, d'une réputation ou d'un savoir partagé. Elle dépend davantage de la capacité à attirer l'attention dans le présent. La célébrité illustre ce déplacement, elle peut être intense mais brève, et sa conservation exige une exposition continue. Cette économie de la visibilité ne concerne pas uniquement les vedettes. Elle influence plus largement les manières de se présenter, de rechercher la reconnaissance et de juger ce qui mérite intérêt. Bowman souligne ainsi que la culture peut devenir un ensemble d'offres rapidement consommées plutôt qu'un espace de transmission et de discussion durable. Il ne s'agit pas d'opposer mécaniquement une ancienne culture légitime à une culture contemporaine dégradée. L'enjeu est d'observer comment l'accélération modifie les conditions de l'attention, de la mémoire et du jugement. Quand les références sont constamment remplacées, il devient plus difficile de construire des repères communs et de maintenir un débat public suivi. Cette dimension culturelle complète son analyse économique et politique, la liquidité agit aussi sur ce que les sociétés retiennent, admirent et rendent partageable. En conclusion, la vie liquide intéressera en premier lieu les lecteurs de sociologie, de philosophie politique et de critique sociale qui cherchent un cadre pour interpréter la précarité des parcours, l'accélération des rythmes sociaux et l'omniprésence de la consommation. Il peut également être utile aux étudiants, aux professionnels de la culture, de l'éducation ou du travail social, ainsi qu'à toute personne souhaitant relier des expériences individuelles de pression, d'instabilité ou d'isolement à des transformations collectives plus vastes. Son apport pratique et surtout réflexif, Bowman ne propose pas un programme technique ni des conseils de développement personnel. Mais il donne des outils pour distinguer liberté de choix, adaptation contrainte et véritable sécurité sociale. Le lecteur peut ainsi mieux interroger les discours qui présentent la flexibilité comme une vertu sans coût. Par rapport à de nombreux essais sur la mondialisation ou le numérique, le livre se distingue par la cohérence de sa métaphore de la liquidité et par son attention simultanée aux institutions, aux émotions, aux relations et aux pratiques culturelles. Il ne traite pas la consommation comme un domaine séparé de la vie sociale, elle devient une logique qui affecte aussi la valeur des personnes et la solidité des engagements. Sa prose peut être dense et son diagnostic volontiers inquiet, mais cette ampleur fait sa force. Bowman articule les mécanismes structurels et les vécus ordinaires sans réduire les difficultés contemporaines à une responsabilité individuelle. Si vous souhaitez soutenir Zygmunt Bowman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.